Chapitre 2. Les grands jours du tribunal. Si ces hommes avaient cru assumer, ainsi qu'ils le proclamaient, une tâche patriotique ou simplement honorable, comment aucun d'eux n'eut-il par la suite la pensée d'écrire ou de compter ce qu'il avait entendu et fait au temps du tribunal? Dans la masse énorme d'autobiographie et de justification qu'a engendré la Révolution, on ne trouve pas un seul récit émanant d'un des collaborateurs de Fouquier-Tinville. Tous souhaitèrent qu'on oubliât cette phase de leur existence. Pourtant, ce qu'ils avaient vu méritait d'être consigné. Il n'est pas permis de croire qu'ils pussent jamais l'avoir oublié, et pas un n'éprouva le besoin de soulager sa mémoire, ainsi que le fit Bayeul, auteur de l'Almanach des bizarreries humaines. Les débuts, il est vrai, furent assez ternes. Du 1er au 12 octobre, on se contenta d'expédier la besogne courante, quelques curés, quelques jeunes gens accusés d'embauchage, une ou deux condamnations par jour, rien de plus. Fouquier, tout en dressant son nouveau personnel, préparait des coups de théâtre. Depuis le 2 août, il possédait, parmi ses pensionnaires de la conciergerie, la reine Marie-Antoinette, transférée là du temple en vertu du décret qui la renvoyait devant le tribunal révolutionnaire. On semblait l'oublier, mais Fouquier cherchait les procès retentissants comme un comédien recherche les beaux rôles. Peut-être aussi s'inquiétait-il de voir les terroristes reprocher au tribunal sa lenteur et ses ménagements. C'est donc lui qui, le premier, stimula les comités. « Le tribunal, écrivait-il, se trouve inculpé dans les journaux et dans tous les lieux publics sur ce qu'il ne s'est pas encore occupé de l'affaire de la ci-devant reine. On s'empressa aussitôt de réunir les pièces du procès. On en fabriqua même une, tout exprès, effroyable celle-là, due à la collaboration d'Hébert, du savetier Simon, du maire de Paris, Pache, et du conventionnel David, lesquels ne craignirent point d'abuser de l'innocence du dauphin et d'arracher à l'enfant contre sa mère une déposition infamante. Ils escomptaient grandement l'effet à l'audience d'une si épouvantable révélation. Les choses pourtant traînèrent en longueur. Fouquier manquait d'éléments pour rédiger l'acte d'accusation. Il réclama du comité de salut public la communication des pièces du procès de Louis XVI, espérant y trouver des inspirations. On les lui promit, mais avant même de les avoir reçues, il risqua l'affaire. Le samedi 12 octobre, à 6 heures du soir, un huissier du tribunal et 4 gendarmes amenèrent la veuve Capet à la grande chambre pour l'interrogatoire préalable. L'audience était terminée. On avait condamné ce jour-là le curé d'un village des Vosges, prévenu, entre autres griefs, d'avoir déserté la procession en portant le Saint-Sacrement parce que les hommes armés qui lui faisaient escorte étaient ivres-morts. La vaste salle était vide et sombre. Seules 2 bougies l'éclairaient, posées sur le bureau de l'accusateur public, auquel avaient pris place le président Hermant, Fouquier et le greffier Fabricius. On rapprocha une banquette sur laquelle s'assit l'inculpé. Hermant posait les questions, Fouquier prenait des notes, Fabricius rédigeait. L'ombre remplissait l'immense pièce. La voix de la souveraine devait résonner lamentablement sous les hauts plafonds dans ce grand espace désert. Tandis qu'elle répondait, ses regards fouillant les profondeurs noires de la salle distinguèrent des gens qui se dissimulaient dans l'obscurité. Des spectateurs privilégiés, sans doute curieux de cette scène tragique. Ses ombres demeurèrent immobiles et muettes, et malgré les efforts de ses yeux myopes, la reine ne put les identifier. Fouquier employa la journée du lendemain à rédiger l'accusation, quoiqu'il n'eût pas reçu encore les pièces annoncées par les comités. Le lundi 14 à 8 heures du matin, l'accusé parut en audience publique devant ses juges et les débats commencèrent. Il est inutile de faire ici le récit d'un procès si souvent et si minutieusement compté. Il suffira d'en fixer quelques traits qui aideront à reconstituer la physionomie du tribunal durant ces journées fameuses. Quand l'accusé parut, la foule resta saisie du contraste émouvant entre la belle reine, souriante et parée, dont tous les Parisiens avaient l'image dans la mémoire, et la femme impassible, à cheveux blancs, très pâle, l'air brisé, toute plate dans sa robe de veuve. Elle s'assit sur un fauteuil qui servait sans doute à tous les prévenus jugés isolément, et le président l'interrogea aussitôt sur son nom et surnom, son âge, etc. La foule qui se bousculait derrière la cloison d'appui pour mieux l'apercevoir réclamait à tout moment qu'elle se tînt debout afin que rien du spectacle ne fût perdu. Ceux qui étaient près d'elle l'entendirent murmurer « Le peuple sera-t-il bientôt là de mes fatigues ?» Durant la lecture de l'acte d'accusation, on la vit attentive et calme, promener machinalement ses doigts sur les bras de son siège, comme sur un piano. L'audition des témoins se prolongea jusqu'à 3 heures de l'après-midi. On suspendit l'audience qui fut reprise 2 heures plus tard. Il continue à défiler, perfide, inepte ou respectueux. Monsieur de la Tour du Pin, appelé à déposer, adresse à la prisonnière, en arrivant à la barre, un grand salut de cour. Un canonnier, Roussillon, déclare que, au 10 août, lors de l'envahissement du château, ayant pénétré dans la chambre de l'accusé, il a trouvé sous son lit des bouteilles vides, ce dont il conclut qu'elle avait grisé le chevalier du poignard. Un certain Labenette raconte que la veuve Capet en voulait à sa vie et avait dépêché des spadassins pour l'assassiner. On écoute patiemment d'anciens domestiques de Versailles, des femmes de chambre, des geôliers, des gendarmes, des couturières. Tandis qu'il parle, Fouquier feuillette les pièces, base de l'accusation, que vient de lui envoyer la convention et qu'il n'a reçu qu'une heure avant le commencement des débats. Simon, le savetier du temple, le précepteur du dauphin, paraît à la barre. L'aspect de cet homme qui lui a pris son fils doit ravager le cœur de la reine. Elle le laisse parler sans l'interrompre, n'osant, ne daignant pas peut-être lui demander comment se porte son enfant. Hébert aussi est là. À voix haute, il réédite sa sordide calomnie et, comme la reine garde le silence, il se trouve un juré pour insister. On sait le cri de protestation indignée que jette la noble femme très émue à l'assistance muette d'horreur. « J'en appelle à toutes les mères qui peuvent se trouver ici. » L'effet est si grand que l'audience s'en trouve interrompue pendant quelques instants. Un autre incident, navrant. On apporte sur le bureau du président un paquet scellé renfermant divers objets saisis sur la prisonnière lors de son transport du temple à la conciergerie. Herman brise les cachets et Fabricius présente à Marie-Antoinette chacun des souvenirs qu'il contient. Elle voit ainsi passer devant ses yeux les fantômes de ceux qu'elle aime, personnifiés par ces reliques intimes que profanent les mains des huissiers. Herman, tranchant et froid comme une lame, presse des questions. « De qui ces cheveux ?»« De mes enfants, morts et vivants, et de mon époux. »« Ce papier est chargé de chiffres. »« Une table pour apprendre à compter à mon fils. » Ce portrait, de Madame de Lamballe. Et ceci, ce sont 2 dames avec qui j'ai été élevé à Vienne. Leur nom, les dames de Mecklembourg et de Hesse. Fabricius sort ainsi un nécessaire garni de ciseaux et d'aiguilles, un miroir, une bague entourée de cheveux, un papier où sont 2 cœurs entrelacés d'initiales, un petit carré de toile brodé d'un cœur enflammé percé d'une flèche. Ici, Fouquier relève son nez grêlé. Lui qui, en ce moment même, porte sous ses vêtements une médaille de la Vierge, feint d'ignorer ce qu'est un scapulaire. Il prend la parole et observe que, parmi les accusés qui ont été traduits devant le tribunal comme conspirateurs et dont la loi a fait justice en les frappant de son glaive, on a remarqué que la plupart, ou pour mieux dire la majeure partie d'entre eux, portaient ce signe contre-révolutionnaire. L'audience du 14 se termina dans la soirée. La reine fut reconduite à son cachot de la conciergerie. Par le couloir, l'ancienne galerie des peintres, aujourd'hui galerie Saint-Louis, et l'escalier tortueux qui s'ouvrait au premier étage dans la galerie des prisonniers, à côté du grand degré de l'ancienne chambre des requêtes pour aboutir au rez-de-chaussée tout près de la chapelle, dans le corridor central de la prison. Le 15, les débats furent repris à 8 heures du matin. De nouveaux témoins entendus, la parole fut donnée vers 6 heures de l'après-midi aux deux défenseurs, auxquels on n'avait accordé qu'un quart d'heure pour se concerter. Tronçon du Coudray et Chauveau-Lagarde parlèrent durant 2 heures. Quand celui-ci se fut rassis, la reine, s'approchant de lui, dit « Combien vous devez être fatigué, monsieur, je suis bien sensible à toutes vos peines. » Cette partie de l'audience s'était prolongée tard dans la soirée. À la reprise, le président Hermant prit la parole. Son résumé, qui devait être impartial, fut en réalité un second acte d'accusation. Le public, malgré l'heure tardive, ne s'était pas encore lassé, il voulait voir la fin. Dans la grande chambre, éclairée par quelques rares chandelles, moutonnées, les têtes parquées, attentive à saisir sur le visage de la prisonnière le moindre signe de faiblesse. Elle était là, luttant toujours, se raidissant malgré sa fatigue. À côté d'elle se tenait l'officier de gendarmerie, de Bune, chargé de la surveiller. Comme elle se plaignit de la soif, ceux qui l'entouraient se regardèrent. Aucun d'eux n'osait offrir un verre d'eau à celle qui avait été la reine de France. De Bune, à la fin, se risqua et ce léger service lui valut d'être emprisonné le lendemain. La nuit, cependant, s'avançait. Il faisait froid. Les curieux, peu à peu, se faisaient plus rares. Renonçant à l'immobilité forcée du prétoire, beaucoup marchaient, par groupes, dans la salle des pas perdus. Une voix, vers 1 heure du matin, annonça la fin des plaidoiries. Bientôt, une autre voix, qui semblait partir d'une fenêtre entrebâillée, jeta dans l'espace « Les jurés délibèrent ». La foule rentra dans la salle d'audience. Le moment suprême approchait. Bien des gens, déjà, s'étaient répandus par la ville annonçant que la reine serait déportée. C'était en ce moment l'opinion générale. Les yeux de tous les assistants, muets, demeuraient fixés sur les portes par où les jurés allaient reparaître. À 4h30 du matin, le coup de sonnette retentit, annonçant la fin de leur délibération. Ils rentrèrent. Leur verdict était affirmatif. C'était la mort. Hermant, toujours impassible, d'un ton sec, ordonne de faire comparaître l'accusé. La voici. Tous les regards convergent sur elle. Interrogée si elle a quelque observation à présenter sur l'application de la peine, elle ne répond pas. Elle fait non d'un signe de tête. Elle écoute la sentence sans émotion, ni crainte, ni indignation, ni faiblesse. Mais elle reste anéantie par la surprise. L'espérance l'a soutenue tout le temps des débats, et c'est figée d'étonnement qu'elle écoute jusqu'au bout, sans que son visage reflète rien que la stupeur, la voix du président bredouillant la formule accoutumée. Déclare, conformément à la loi du 10 mars dernier, ces biens, si aucun l'a dans l'étendue du territoire français, acquis et confisqué au profit de la République. Ordonne qu'à la requête de l'accusateur public, le présent jugement sera exécuté sur la place de la Révolution, imprimé et affiché dans toute l'étendue de la République. C'est fini. Les juges se retirent. On emmène la condamnée. Elle ne dit pas une parole, ne fait pas un geste. Traverse la salle sans rien voir et sans rien entendre. En approchant de la barrière derrière laquelle est parqué le peuple, elle relève la tête avec majesté et disparaît, suivie du lieutenant de Bune dans les dépendances du tribunal. Tandis que, chapeau bas, le gendarme l'entraînait vers la conciergerie par le long couloir qui mène à l'escalier de la prison, elle s'arrêta, hésitante. « Je vois à peine à me conduire, » dit-elle à de Bune. Celui-ci lui offrit le bras et ne la quitta qu'à la porte de son cachot. À cette même heure, pendant que le rappel roulait dans les rues et que les plus pressés se hâtaient déjà vers l'échafaud pour se réserver une bonne place, l'un des jurés, le menuisier Trinchard, satisfait, adressait à son frère ce courbier « Je t'apprends, mon frère, que j'ai été un des jurés qui ont jugé la bête féroce qui a dévoré une grande partie de la République, celle que l'on qualifiait ci-devant de reine. » La lettre a été souvent citée, mais il n'est pas inutile de la reproduire une fois de plus. Elle indique l'état d'esprit et le degré d'instruction des hommes auxquels Fouquier-Tinville avait livré la fille de Marie-Thérèse. Le jugement de la reine inaugurait la série des grands procès politiques. Durant 6 mois, le tribunal va servir à débarrasser Robespierre de tous ceux dont l'éloquence ou les opinions font obstacle à ses nébuleuses ambitions. Fouquier s'y emploiera avec un zèle opiniâtre, un succès qui supposerait des talents et de l'habileté si la docilité des jurés n'eût grandement facilité sa tâche. Tous les actes d'accusation qu'il rédigea sont vulgaires et déclamatoires. Besogne manifestement hâtive, d'un esprit médiocre, brouillon, n'ayant pas même la coquetterie d'un semblant d'éloquence ou d'argumentation. Un tombereau d'invectives déversé au hasard sur les accusés. La brutalité de la loi et la grossièreté de l'auditoire n'exigeaient à vrai dire rien d'autre, et c'eût été peine perdue que de s'arrêter à de plus délicates arguties. Il fait montre en revanche d'une activité toujours en éveil. Son tribunal absorbe tous ses instants. Pour plus d'exactitude, il a renoncé au logement qu'il occupait rue Saint-Honoré vis-à-vis l'Assomption et s'est installé place Dauphine à la porte même du palais. Sa sollicitude suit ses condamnés jusqu'à l'échafaud. C'est lui qui donne les ordres au bourreau. Il s'informe auprès des huissiers sur la façon dont ça s'est passé. Il a l'œil à tout et considère comme un insuccès personnel le moindre retard dans l'exécution des jugements du tribunal. Pour la célérité des choses, Henriot, le commandant général de la force armée parisienne, eût souhaité que la guillotine fonctionnât pour les condamnés du tribunal révolutionnaire sur la place de la maison commune, place de grève, ainsi qu'il était de règle pour les condamnés du tribunal criminel. Mais Fouquier repoussait cette assimilation rabaissante. Il souhaitait que ces condamnés à lui, tous contre-révolutionnaires, écrivait-il, non sans une pointe de vanité, effectuassent un long parcours dans Paris et fussent exécutés le plus près possible du palais où siégeait la Convention nationale. C'était sans doute une sorte d'hommage qu'il croyait devoir à l'Assemblée. L'empressement que Fouquier apportait à exécuter, à devancer même les désirs de la Convention, à la solidariser, pour ainsi dire, avec lui, dut paraître quelquefois excessif à nombre de députés. Peut-être eussent-ils souhaité un peu de temporisation. Le 3 octobre, les 21 Girondins sont décrétés d'accusation. Aussitôt, Fouquier les considère comme lui appartenant. Il reçoit, le 5, le texte du décret et tout de suite réclame les pièces et le rapport d'amarre qu'il veut utiliser en manière d'acte d'accusation. Il se fait fort de réunir tous les prévenus à la conciergerie le jour même. Il témoigne son désir de procéder à l'instruction, aux interrogatoires, sans aucun retard. Il rappelle que Philippe Égalité, compris dans le même décret, n'est pas sous sa main. Il est détenu dans une prison de Marseille. Fouquier réclame sa prompte translation. D'ailleurs, il prend tout sur lui et assure que rien n'arrêtera le jugement. Déjà, le 7 octobre, il a expédié Gorsas. C'était le premier conventionnel qui paraissait en accusé devant le tribunal. Marat, lui, s'y est présenté en triomphateur. Gorsas, amené par les gendarmes à l'audience, déclare ses noms et prénoms et subit l'interrogatoire habituel. Il s'assied. Le président prononce l'arrêt de mort, l'accusé est hors la loi, la constatation d'identité suffit. Le malheureux reste stupéfait, il demande à parler, mais la sentence est déjà rendue, les juges se retirent. Tandis qu'on l'entraîne, il se tourne vers l'auditoire. « Peuple, implore-t-il, c'est de vous que je réclame la parole !» La foule le hue et crie « À bas !» Dans le tumulte, le pauvre Gorsas se débattant, déjà dehors, clame lamentablement « Je recommande à ceux qui m'entendent ma femme et mes enfants. » Il ne fallait pas espérer que le procès des Girondins se passerait aussi allègrement. Fouquier se promettait de ne pas le laisser s'éterniser. Désireux que cette affaire n'interrompît pas la besogne courante du tribunal, Herman réclama de nouveaux juges. Mais avant même que sa requête fût parvenue au ministre, le procès des Girondins était entamé. De ces audiences célèbres, tout ce qu'on doit retenir ici, c'est l'attitude du public ordinaire du tribunal, manifestement désorienté en voyant s'asseoir sur les gradins où jusqu'à présent n'ont pris place que des conspirateurs, ces 21 jeunes gens dont il ne s'est pas déshabitué encore de citer les noms parmi ceux des plus fermes amis du peuple. c'est le défilé des témoins, au nombre desquels paraît le citoyen Détournelle, ministre des contributions publiques, que le président interroge sur ses noms et prénoms. Est-il indispensable, demande piteusement le ministre, que je dise le prénom qui m'a été donné à ma naissance? Oui, je le profère à regret, c'est Louis. C'est Chabot qui ricane en apercevant sur le fatal gradin le groupe de ses adversaires politiques et qui s'avance avec affectation à la barre des témoins, vêtu d'une redingote déchirée, les cheveux gras, dégoûtant de saleté. Sa déposition, il parla pendant 11 heures, fut un réquisitoire. Des colloques s'engagèrent entre les témoins, le président, l'accusateur public et les accusés. De ceux-ci, on ne discutait que les opinions, et le public paraissait se désintéresser. Il semblait mollir et prendre parti pour les prévenus. Les jurés, dans ces conditions, se laisseraient-ils convaincre? Que pouvait-on attendre de l'effet des plaidoiries et de l'ensorcelante éloquence de Vergniaud défendant sa tête? Vouquier commençait à redouter un acquittement. Le procès, d'ailleurs, menaçait de se prolonger. Il avait commencé le 24 octobre, on était au 28 et aucun fait décisif n'était acquis à l'accusation. Fouquier-Tinville, dans ce désarroi, appela à son secours la Convention. Il se plaignait de la lenteur des formes, de la loquacité des prévenus, de l'abondance des témoins. D'ailleurs, ajoutait-il, pourquoi des témoins? Et il demandait à l'Assemblée de faire disparaître toutes les formalités qui entravent la marche du tribunal. La même idée était venue au père Duchesne. « Brave bougre qui composait le tribunal, écrivait-il, ne vous amusez donc pas à la moutarde. Faut-il tant de cérémonies pour raccourcir des scélérats que le peuple a déjà jugés ?» La même idée encore, et cet accord est bien surprenant, avait séduit grandement les Jacobins. À la séance du 29, ils se présentèrent à la Convention, réclamant une loi qui débarrasserait le tribunal des formes qui étouffent la conscience et empêchent la conviction. On a retrouvé plus tard, dans les papiers de Robespierre et de son écriture, une proposition de décret qu'il griffonna à la tribune en réponse aux vœux de la Société des Jacobins. La voici avec ses lacunes et ses incorrections. La Convention nationale, considérant que le glaive de la loi ne paraît atteindre avec facilité que la tête des coupables obscurs, tandis que les jugements des grands criminels éprouvent des lenteurs qui donnent un libre cours à l'intrigue, à l'imposture, à l'audace contre-révolutionnaire, décrète ce qui suit. S'il arrive que le jugement porté au tribunal révolutionnaire ait été prolongé 3 jours, le président ouvrira la séance suivante en demandant aux jurés si leur conscience est suffisamment éclairée. Si les jurés répondent oui, il sera procédé au jugement. Le décret, voté immédiatement, fut porté le jour même au tribunal. Le lendemain, quand s'ouvrit l'audience à 9 heures du matin, Fouquier-Tinville en requit la lecture et Hermant, toujours esclave du devoir, demanda aussitôt aux jurés si leur conscience était suffisamment éclairée. Ils se retirèrent en leur chambre pour en délibérer et reparurent après une courte absence. Antonelle, leur président, déclara que leur conviction n'était pas faite. Les débats se poursuivirent donc et l'on continua l'audition des témoins. À 2 heures de l'après-midi, l'audience fut suspendue jusqu'à 6 heures. Au moment où les juges reprenaient leur place, les accusés n'étant pas encore introduits, Antonelle se leva et, parlant au nom de ses collègues, « Je déclare, dit-il, que la conscience des jurés est suffisamment éclairée. » Cette courte phrase, tombant dans l'effrayant silence, coupa court aux dépositions, supprima la fin des interrogatoires, les plaidoiries, le résumé du président. Hermant n'eut qu'à poser les questions, ce dont il s'acquitta aussitôt. Les jurés se retirèrent pour délibérer. Vers 10 heures du soir, ils rentrèrent en séance. Antonelle a la figure altérée. Camille Desmoulins, qui se trouve là en spectateur, va à lui, anxieusement, n'osant l'interroger. « Ah, mon Dieu, dit-il, je te plains bien, ce sont des fonctions bien terribles. » À l'unanimité, la réponse est « Oui, les accusés sont coupables. » comme les jurés émettent chacun à leur tour ce « oui » tragique, l'un d'eux, Brochet, l'ancien laquais, celui qui avait divinisé Marat, croit devoir, la loi l'y autorise, motiver son opinion. Le peuple de cette enceinte a dû se convaincre, dit-il, qu'il réchauffait dans son sein des serpents venimeux, qui, après 4 années de constance et de zèle, pour acquérir et conserver le plus précieux de tous les biens, la liberté et l'égalité, ont voulu, par des manœuvres ténébreuses, étouffer cette même liberté dans le lieu même qu'il avait créé. Il parle de l'œil vigilant des patriotes, des repères nocturnes et criminels, de la République universelle, et manifeste son désir de voir les têtes coupables d'autres mandataires du peuple tomber bientôt sous le glaive de la loi. Les huissiers ouvrent la porte par laquelle on communique à la chambre où sont parqués les accusés. Escortés de gendarmes, ils montent à leur gradin. Les 7 défenseurs se replacent à leur banc. Tous s'attendent à la continuation des débats. Mais Herman se lève, fait lecture de la déclaration du jury, et Fouquier, aussitôt, requiert la mort pour tous. Ils comprennent seulement l'escamotage dont ils sont victimes. Une grande émotion les secoue. Tous crient à la fois, tous se lèvent, agitant les bras. Le vieux Sillery lui-même jette ses béquilles. Jean Sonnet, très pâle, prononce des phrases que dans le bruit on ne distingue pas. Voyez Fonfred se jette dans les bras de Ducos. Brissot, les mains ballantes, baisse la tête et paraît consterné. Fauchet lève les yeux vers le ciel. Vergniaud semble ennuyé. Il se trouve vers Valazé, qui chancelle et s'appuie contre un des gendarmes. « Qu'as-tu donc? As-tu peur ?»« Je meurs, » répond Valazé. Il tombe. D'un stylet caché parmi les papiers préparés pour sa défense, il sait percer le cœur. Et Vergniaud, s'adressant au médecin Le Hardy, l'un de ses compagnons, dit en souriant « Docteur, voilà déjà un de vos malades guéris. » Le public est resté immobile d'effroi et d'horreur. Les condamnés l'interpellent, mais il demeure muet. La terreur passe, muselant les bouches. Les juges, dans le bruit, s'agitent. Herman, debout, commande « Emmenez-les !» Les gendarmes tirent les condamnés au bas des gradins, les poussent pêle-mêle vers la porte. Eux se débattent, protestent, sont entraînés, jettent aux curieux en passant devant la balustrade des assignats et les billets de leur défense. « À nous, mes amis, vive la République! Vive la République !» riposte d'un cri la foule qui, tout à coup déchaînée, eut le groupe tumultueux que les soldats balaient. Sur la bousculade, la porte se referme. On les entend encore quand ils ne sont plus là. Ils chantent. Le bruit de leur voix s'éloignant décroît rapidement par le dédale des corridors. À son siège, le président, resté debout, impose d'un geste le silence. L'arrêt de mort n'a pas été prononcé. Il va en donner lecture, formalité rendue plus tragique par l'heure tardive, il est 11 heures, par l'ombre qui emplit la salle et que percent à peine les flammes vacillantes de quelques chandelles. Par l'aspect des gradins déserts, sur l'un desquels on distingue une masse immobile, écroulée, le cadavre de Valazé. Herman requiert les 2 officiers de santé attachés au tribunal, Nourri et Théry. Ils s'avancent, montent au gradin, examinent le corps, le palpent. Jusqu'au plus profond recoin de la grande chambre, tout se tait et attend. Au dehors, la pluie tombe en ondées avec un bruit monotone et désolant. « Il est mort !» déclare un des médecins. Sur quoi le président, toujours empanaché et impassible, invite 2 huissiers, nappiers et de Guénier à reconnaître le cadavre. Ceux-ci vont à lui, le nomme à voix haute, Charles Éléonore Dufriche-Valazé. Et sur le champ, Fouquier parle. Son vœu est qu'on guillotine le mort avec les autres, mais le tribunal ne lui accorde qu'une demi-satisfaction. Herman prononce que le corps du dit Valazé sera porté dans une charrette, accompagnant celle des complices au lieu de leur supplice, pour, après leur exécution, être inhumé dans la même sépulture. L'audience est terminée. Tandis que les magistrats et les jurés se retirent, les huissiers emportent ce mort qui vient d'être jugé et le déposent dans la salle où ses compagnons attendent d'être transférés pour y passer leur dernière nuit dans la ci-devant chapelle de la conciergerie. De ce jour, les accusés de Marc se succèdent presque sans intervalle. Le 6 novembre, c'est Philippe Égalité qui paraît au fauteuil. Hautain, superbe de flegme et d'insouciance, entre les 6 gendarmes qui l'escortent, le sabre nu. Puis c'est Madame Roland, entrée à la conciergerie, au moment même où l'on conduisait à l'échafaud ses amis de la Gironde. Le jour de la Toussaint, au greffe du tribunal, le juge David l'interrogea, en présence de Fleuriolesco et du commis greffier d'Herbé. On la garda plus de 3 heures, la pressant de questions et l'obligeant à y répondre en peu de mots, ce à quoi elle ne consentait pas volontiers. 2 jours plus tard, nouvel interrogatoire dans la salle du conseil, où se trouvait une table autour de laquelle étaient rangées plusieurs personnes qui paraissaient être là pour écrire et ne faisaient qu'écouter. Il y eut beaucoup d'allants et de venants, et rien ne fut moins secret que cet interrogatoire. Le 8, enfin, elle parut au tribunal. Dumas a présidé, et Lescofflorio suppléait Fouquier-Tinville. L'accusé commença la lecture d'un aperçu de sa conduite politique depuis le commencement de la Révolution. Mais Dumas l'interrompit, observant qu'elle ne pouvait abuser de la parole pour faire l'éloge de criminels dont le tribunal avait fait justice. Elle protesta avec véhémence contre ce procédé et, se tournant vers l'auditoire, « Je vous demande acte, cria-t-elle, de la violence que l'on me fait !» À quoi le peuple répondit « Vive la République, à bas les traîtres !» Le procès de Bailly dura 2 jours. Ensuite, on vit passer Manuel. Les habitués du tribunal assistaient ainsi au défilé tragique de toutes les idoles dont, depuis 4 ans, les noms avaient été acclamés. Duport-Dutertre, Barnave, les conventionnels Kersin et Osselin, Noël, l'ancien ministre Lebrun, les généraux d'armée Luckner, Custine, Biron, sans nommer les accusés plus obscurs dont le nombre insensiblement augmentait. Le tribunal, pressant la besogne, parvenait à interroger et à juger 4 ou 5 prévenus par jour. Des fournées, rares au début, étaient fréquentes maintenant. C'était en quelque sorte besogne courante, vite expédiée, sans incident. Les juges, les jurés, les greffiers semblaient remplir une formalité. Le public, insensiblement, s'était blasé. Il ne manifestait plus, d'ordinaire, l'intérêt modéré qu'il apportait aux audiences. Les accusés eux-mêmes prenaient place docilement au gradin, répondaient aux questions, écoutaient l'acte d'accusation et le réquisitoire sans protestation, avec une sorte de nonchalance résignée. C'est dans les couloirs du tribunal qu'était le spectacle. Le va-et-vient continu des magistrats empanachés ou manteaux noirs flottants, des jurés se réunissant à la buvette, dînant là, fourgués, quand Fouquier est loin, plus silencieux et gourmé lorsqu'ils l'aperçoivent. Lui est toujours en mouvement, bousculant ses commis, activant les expéditionnaires, coursant de la salle de la liberté à celle de l'égalité, dictant à ses substituts les actes d'accusation, laissant toujours ouvertes les portes de son cabinet afin de tout surveiller et de tout entendre. S'il ne siège pas, il consolide les témoins, attendant l'heure de paraître à la barre. Il vient assister à un bout d'audience, court à un interrogatoire. On travaille partout, dans la chambre du conseil, dans le greffe, dans le bureau de chacun des juges, au parquet, et partout il est à la fois. Lui aussi, pour ne pas perdre de temps, prend au restaurant du tribunal son déjeuner, que lui sert, à 1h30, sur une petite table isolée au fond de la salle, la femme Morizan, la buffetière. Il plaisante quelquefois à sa façon. Rencontrant Joly, un des huissiers du tribunal du département, il dit « Le peuple doit être content, la guillotine marche. Elle marchera et ça ira encore mieux. » À la femme de Gamache, le valet de chambre de Philippe Égalité, sollicitant la permission d'embrasser son mari qui arrive de Marseille avec le prince, il demande « Quel âge as-tu ?»« 22 ans. »« À ton âge, ajoute-t-il, un mari de perdu sans de retrouver. » La jeune femme se met à fondre en larmes. Fouquier reste un instant songeur, prend la plume, écrit quelques lignes et ajoute « Écoute, d'Orléans mourra mercredi, et je ferai ce que je pourrai pour te rendre ton mari. » Gamache fut mis en liberté, aujourd'hui. Parfois il s'emporte contre Dumas quand celui-ci préside. Il lui reproche de ne pas laisser parler les accusés, c'est un gueux. Dumas avait d'autres façons. Il interrogeait avec insolence, souvent avec ironie. Il siégeait dans le procès du général Houchard, un vieux soldat de 53 ans qui avait conquis tous ses grades dans l'armée républicaine. Houchard parut à l'audience, d'une taille colossale, la démarche sauvage, le regard terrible. Un coup de feu avait déplacé sa bouche en la renvoyant vers l'oreille gauche. Sa lèvre supérieure était partagée en deux par un coup de sabre. Deux balafres parallèles coupaient sa joue droite. À ce guerrier, Dumas le Rouge adressa entre autres cette stupide question. « Pourquoi n'avez-vous pas fait prisonnière toute l'armée anglaise et autrichienne ?» Et comme l'accusé bougonnait, le président le traita de lâche. Houchard poussa un rugissement. Il déchira ses vêtements, en présenta sa poitrine labourée de cicatrices. « Citoyen juré, lisez ma réponse, c'est là qu'elle est écrite. » Et il retomba sur son banc, abîmé dans ses larmes, les premières peut-être qui s'échappaient de ses yeux. Il n'apercevait plus ce qui se passait autour de lui. Il n'avait plus qu'un mot à la bouche. « Le misérable, il m'a traité de lâche. » Lorsque, en descendant, on lui demanda le résultat de son affaire, il répétait « Il m'a traité de lâche. » Et tout le reste n'était rien pour lui. Il en écuma jusqu'à l'échafaud. Quelques jours plus tard, d'autres cris, d'autres pleurs. Celle qu'on nomme la Dubarry est devant ses juges. Elle a 50 ans, mais peut plaire encore, elle le sait. Quoiqu'elle tremble de tous ses membres, la pauvre femme essaie de minauder. Elle n'a qu'une arme à sa disposition, sa grâce fanée. Elle l'utilise, répond avec sang-froid et prudence. Mais quand elle s'entend condamnée à mort, terrassée d'abord, elle se révolte aussitôt, sanglote, étouffe, demande grâce, râle des mots sans suite. Les gendarmes la prennent sous le bras et l'emportent. C'était là des aubaines pour les amateurs quotidiennement nombreux de ce genre d'émotions. Elles étaient peu communes. Un gendarme, condamné pour propos inciviques, sauta des gradins, se précipita vers les juges. Les huissiers le saisirent, il fut aussitôt garrotté. Le fils de Custine, après avoir entendu sa sentence, se contenta de hausser les épaules. Lamourette, évêque de Lyon, fit un signe de croix, mais l'immense majorité des condamnés ne manifestait aucune émotion. Ils écoutaient la lecture du jugement, l'air très étonné pour la plupart, répondaient placidement « non » au président, leur demandant s'ils avaient quelque observation à formuler sur l'application de la peine, et puis descendaient docilement les gradins et suivaient les gendarmes sans mot dire. Ce qu'était une comparution devant le tribunal, on le sait d'ailleurs très précisément par le récit de Madame Vitas, qui, le 9 février 1794, y fut traduite avec 7 autres femmes. Angélique Françoise Vitas avait 32 ans et appartenait à la communauté des Carmélites de la rue de Grenelle. Sortie de son couvent le 14 septembre 1792, elle s'était réfugiée avec mesdames Biochet, Carvoisin, Foubert, Lénier, Crevel et Donon dans une maison de la rue Cassette où les rejoignit une religieuse visitandine, madame Chenet. Au mois d'août 1793, elles étaient allées se loger rue Neuve-Sainte-Geneviève. Arrêtées là, elles furent conduites à la prison de la Bourbe. 2 mois après leur internement, le juge-maire, accompagné du commis greffier Raymond Josse, entreprit le voyage de la Bourbe le 31 décembre en pleine nuit afin de les interroger. Madame Crevel, la première, fut appelée au greffe de la prison vers 2 heures du matin, puis les autres, individuellement, descendirent. À 5 heures du soir vint le tour de Madame Vitas. Un gendarme, d'un air terrible, lui ordonna de le suivre. Mais parvenue au greffe, elle dut attendre jusqu'à 7 heures, parce que ces messieurs dînaient. Enfin, on la conduisit dans une grande salle, au milieu de laquelle était une table. Mère et son greffier étaient assis chacun d'un côté de cette table. Une chaise attendait la prévenue. Le juge l'invita à s'asseoir. Mère Savary n'était pas un méchant homme. Il affectait volontiers des allures farouches et un ton rude. Mais souvent, après qu'il avait opiné pour la mort d'un accusé, on l'avait vu passer vite dans les couloirs, les yeux pleins de larmes. Comme il occupait au palais un de ses cabinets ouvrant sur le couloir et donnant vue sur le préau de la conciergerie, il y recevait parfois, sous prétexte d'interrogatoire, la fille d'un prisonnier, afin de lui procurer l'occasion de voir son père par la fenêtre et de causer avec lui. On lui reconnaissait de la bonhomie et de la sensibilité, et c'est bien là l'homme que représente Madame Vitas. Certainement, elle était plus coupable, d'après les lois du temps, que la plupart des prévenus, et pourtant le magistrat est pour elle indulgent et attentionné. Le greffier ne se décide qu'avec peine à transcrire ses réponses, dans la crainte de la compromettre irrémédiablement. Est-ce là une modération particulière au juge-maire, ou faut-il penser que ses collègues procédaient avec la même bienveillance aux interrogatoires préalables? D'autres, on l'a su depuis, étaient de braves gens. Loin de la surveillance de Fouquier, ils se montraient pitoyables et faisaient effort pour sauver de la mort les accusés dont ils instruisaient les procès. Mais à l'audience, sous l'œil du terrible maître, en présence de la foule acharnée, ils avaient peur et ne se risquaient pas à témoigner leur compassion. Nolin était de ceux-là. Nolin, qui, ancien commissaire national au tribunal du 5e arrondissement, fut pendant un temps substitut de l'accusateur public, puis juge et vice-président du tribunal révolutionnaire. Dans les prisons, quand il arrivait pour procéder à quelque instruction, on disait: c'est Nolin, tant mieux, il n'en ira pas tant à la boucherie. Il osait se plaindre à Dumas lui-même de la rapidité des procédures. On ne laisse pas parler les accusés, c'est une infamie, on ne peut y tenir, ce n'est plus un tribunal, c'est une boucherie. Nolin, d'ailleurs, ne plaisait pas à Fouquier-Tinville, encore moins à Robespierre. Il fut emprisonné pour un mot dit à la Société des Jacobins et resta sous les verrous des Carmes jusqu'au dit Thermidor. Le juge Hargnies était également un homme estimable, désireux de démissionner, mais retenu lui aussi par la peur. Il faisait preuve, quand il l'osait, de sensibilité et d'humanité. En ce qui concerne Cellier, qui présida fréquemment en remplacement de Dumas, les renseignements sont contradictoires. Toussaint Gabriel Cellier était fils d'un marchand drapier de Compiègne. Son frère aîné était maire de cette ville à l'époque de la Révolution. D'homme de loi au bailliage de Noyon, où sans doute Fouquier, qui était du pays, avait eu l'occasion de le rencontrer, Cellier est passé juge au district de Compiègne et de là au tribunal révolutionnaire. Pour certains, sa dureté, son mépris des formes judiciaires, son insolence à l'égard des accusés, sa grossièreté étaient notoires et l'avaient recommandé pour le poste de vice-président. Pour d'autres, au contraire, c'était un magistrat scrupuleux. On raconte qu'en février 1794, se trouvant à dîner avec 12 ou 15 convives, au nombre desquels était Robespierre, celui-ci se plaignait de la lenteur apportée par le tribunal au châtiment des conspirateurs. Cellier allégua que la loi imposait des formes, que ces formes étaient la sauvegarde de l'innocence et qu'il regarderait leur violation comme un crime odieux. Bah, bah, répliqua Robespierre, voilà comment vous êtes, vous autres, avec vos formes. Attendez, avant peu, le comité fera rendre une loi qui en débarrassera le tribunal, et nous verrons alors. Cellier, indigné, garda le silence. Ils avaient, ces juges, l'audace de se taire, nul autre, et ils retournaient les larmes aux yeux à leur épouvantable munition. Bien souvent, on les a vus pleurer. Ne doit-on pas manifester quelque pitié à ces malheureux, saisis par l'engrenage? Il leur eût fallu de l'héroïsme pour s'en arracher. Et peut-on flétrir sans quelque rémission des hommes qui n'avaient le choix qu'entre leurs épouvantables fonctions ou la mort? En mars, le printemps de l'an 2 s'ouvrit par un jour charmant, ensoleillé et doux. Paris était joyeux comme il l'est au premier soleil, d'autant plus joyeux que ce jour-là commençait le procès d'Hébert. Le peuple comprenait si mal les événements qu'en apprenant l'arrestation du père Duchesne, il se figura que, du même coup, tous les révolutionnaires allaient y passer en même temps et que Robespierre était du nombre. C'était d'ailleurs une loi générale. On en espérait l'immédiate cessation des troubles et de la disette. Le public était même si peu au courant des choses que, 3 jours avant l'ouverture des débats, une foule prodigieuse de citoyens affluait à la place de la Révolution pour voir mourir l'idole de la veille passée subitement au rang des monstres. C'est un indice de l'opinion que les badauds se faisaient du tribunal de Fouquier-Tinville. Ils savaient qu'un homme pris était un homme mort, et dès la nouvelle de l'arrestation, on courait sans délai choisir une bonne place autour de la guillotine. Hommage populaire à l'activité de l'accusateur public. Les raffinés seuls étaient friands du spectacle des audiences. Le 21 mars, ils eurent la surprise de voir leur père Duchesne, qui si souvent avait insulté les victimes et s'était raillé de leurs grimaces, monter au gradin, blême de peur. 10 mois de prison ne l'auraient pas plus changé. 19 accusés étaient à ses côtés, parmi lesquels une femme, la citoyenne Quéquineau, et un étudiant en médecine de 41 ans, Laboureau, que nul ne connaissait et qui n'était qu'un espion de Robespierre placé là pour surprendre et rapporter les confidences qui changeaient les prévenus. Celui-là était bien tranquille. Hébert occupait le fauteuil. Il avait à peine la force de répondre par oui ou par non aux questions du président. On s'étonnait beaucoup qu'il eût l'air plutôt d'un sot que d'un homme d'esprit. Le bruit de sa mine piteuse s'était répandu et la foule accourait pour la contempler. Mais l'affluence était si grande, l'après-midi surtout, que des gardes postés dans la cour et sur le perron du palais repoussaient les curieux au-delà des grilles. Dans les rues, on lisait à haute voix la liste des chefs d'accusation portés contre les accusés. Le 4e jour du procès, le président Dumas, pressé d'en finir, eut un fougueux mouvement d'éloquence. En dépit de l'impartialité que lui commandaient ses fonctions, il traita les accusés d'infâmes, de brigands, d'assassins, de bourreaux, de barbares, d'hypocrites, d'égorgeurs, de parricides, d'affameurs, de féroces esclaves, d'usurpateurs, d'agents du tyran, de valets de l'étranger, de faux patriotes et de royalistes. Les jurés se déclarèrent aussitôt suffisamment éclairés et les défenseurs furent dispensés de plaider. Dumas prononça la clôture des débats. Quand, après un séjour de 2 heures dans la salle de ses délibérations, le jury rentra en séance, il apportait une réponse affirmative sur toutes les questions, sauf sur celle qui concernait l'espion Laboureau. On le fit rentrer isolément. Le gendarme qui l'escortait, en entendant proclamer son acquittement, se jeta dans ses bras. Le président, les juges, les jurés lui donnèrent avec émotion l'accolade fraternelle. Dumas le fit placer près de lui, sur l'estrade, et s'écria: La justice voit avec plaisir l'innocence s'asseoir à ses côtés. Puis il donna l'ordre d'introduire les autres accusés. Et voyant Laboureau assis à droite du président, il comprit qu'ils étaient perdus. La face d'Hébert devint livide, en même temps que la sueur perlait à son front. Pendant la lecture de l'arrêt, il avait le regard fixe et les yeux pleins de larmes. Les gendarmes l'emportèrent. L'athée Clootz, condamné avec lui, en appela au genre humain. Roncin, Vincent et Momoreau conservèrent une attitude très ferme. Madame Quéquineau se déclara sur le point d'être mère et fut séparée des condamnés. Son mari avait été condamné à mort 8 jours auparavant, et on ne sait pourquoi on avait associé cette veuve au jugement des hébertistes. Elle avait été oubliée dans l'acte d'accusation. La condamnation du père Duchesne et de ses complices fut en quelque sorte une réjouissance populaire. Pourtant, la rapidité du procès laissait quelque mécontent. Pour la première fois, on entendit des patriotes s'étonner des façons du tribunal. On ne laisse pas aux accusés le temps de se défendre. Le président leur parle avec beaucoup de dureté. C'est oui ou non que je vous demande, leur dit-il à chaque instant. Il n'est pas question ici de phrases. Le peuple, ajoutait l'observateur de police qui rapporte ses propos, le peuple voit avec peine le tribunal suivre une marche aussi contraire aux lois de l'humanité et de la justice. En faveur des dantonistes, 8 jours plus tard, cette résistance s'affirma. Fouquier la prévoyait, il prit ses mesures. Le 2 avril, au lieu de commencer l'audience ainsi que d'ordinaire à 8 heures du matin, il traîna en longueur le triage des jurés dans la chambre du conseil, opération dont fut exclu, contrairement à la procédure habituelle, le greffier Fabricius, protégé et ami de Danton. Le choix de Fouquier tomba sur des « solides ». Trinchard, Dizou, Lumière des Boisseaux, Ganet, Souberviel, Renaudin, 7 seulement. N'en trouva-t-il pas davantage dont il fut sûr? Il voulait la condamnation de tous les accusés. Elle lui était, sans nul doute, ordonnée. Était-ce pour lui une question de vie ou de mort? Cela paraît probable. Savait-il que la veille ou le matin même, l'ordre avait été donné de l'arrêter, lui et le président Hermant? Il paraît invraisemblable qu'il n'en fût pas informé. À quoi s'étaient engagés pour détourner le coup Fouquier et Hermant? Le comité, sans doute, laissait l'effrayante menace suspendue sur leurs 2 têtes afin de stimuler leurs ailes. De fait, ils se surpassèrent. La première audience ne s'ouvrit donc qu'à 11 heures. On espérait, en siégeant tard, remplir sans trop de malencontre les 3 jours après lesquels seulement le jury pourrait se déclarer pleinement éclairé. Quand la porte du prétoire s'ouvrit, Danton entra, comme le taureau furieux qui surgit dans l'arène les cornes basses. Il espérait, dès l'entrée, soulever le peuple, entassé depuis 3 heures derrière les balustrades. On dit que, comme il gagnait le banc des accusés, Fabricius, le greffier, se leva de son siège, courut à lui et, tout pleurant, l'embrassa. Ce furent, pour Herman et Fouquier, de chaudes journées. Une foule, accourue de tous les points de Paris, déferlait contre les portes du tribunal. Le premier jour, la partie reste indécise. Le 3, elle paraît se décider en faveur des accusés. Le plus minime incident peut transformer leur procès en un triomphe. Le peuple semble n'attendre qu'un signal pour porter les prévenus à la Convention, comme on y a porté naguère l'ami du peuple. Quelle rentrée! C'en est fait dans ce cas de Robespierre et du triumvirat, c'en est fait des comités et du régime de la terreur. Le sort de la France se joue au tribunal et Fouquier le tient dans sa main. Mais c'en est fait aussi de lui et de ses fidèles s'il n'est pas gagnant. Lui ne l'ignore pas, eux, ils hésitent. Entre deux peurs, car la peur est la carte maîtresse, ils ne savent à laquelle céder, ni de quel côté le danger est le plus menaçant. Au couloir, aux salles qui environnent le prétoire, une animation est solide. Les audiences sont courtes afin que les accusés parlent le moins possible, mais dans les coulisses, le spectacle est tragique. Conciliabules animées entre les juges et les jurés. Que va-t-on faire? 4 députés de la Convention, amarres, voulant David évadier, sont là, allant de l'un à l'autre, propageant le souhait du comité. Il faut que tous les accusés soient déclarés coupables. Dans le corridor, dans les salles du bâtiment neuf, c'est un mouvement incessant. Les commis escaladent les escaliers, courent du greffe au parquet, cherchant fiévreusement des pièces que Fouquier réclame impérieusement. Les témoins se massent, indécis, discutants, très perplexes. La buvette est assiégée. L'attente, l'angoisse et le beau temps altèrent. Un soleil d'été chauffe les vieux murs du palais. On s'aborde, on s'interpelle, des querelles éclatent, et le tumulte cesse par instant quand, provenant de l'audience, gronde le tonnerre de la voix de Danton que coupe le fracas des applaudissements. Sur leur siège, Herman et Fouquier, qu'assiste Floriolesco, sont en désarroi. Ils se passent des billets, griffonnés en hâte, minutant leur anxiété. À Fouquier, écrit Herman, dans une demi-heure, je ferai suspendre la défense de Danton. Il faudra prendre quelques mesures de détail. Fouquier répond, j'ai une objection, m'oreiller, interpellation à faire à Danton relativement à la Belgique lorsque tu cesseras les tiennes. Et sur un troisième chiffon, ces mots de la main d'Herman, qu'il faut avancer. On n'avançait pas. Jamais l'ardente éloquence de Danton, auquel on ne parvenait pas à imposer silence, n'avait été plus secouante, ni emphase, ni grands mots, mais la familiarité brutale du maître qui se sent chez soi, le dédain d'un géant que des nains cherchent à enlacer. Ces phrases courtes, imagées, tenaillantes, serrent la gorge à ses adversaires. Danton, aristocrate, la France ne croira pas cela longtemps. Moi, vendu, un homme de ma trempe est impayable. Le peuple déchirera par morceaux mes ennemis avant 3 mois. C'est moi qui ai fait instituer le tribunal révolutionnaire. Aussi, je dois m'y connaître. Interpellant un témoin, Cambon, nous crois-tu conspirateur? Voyez, il rit, il ne le croit pas. Écrivez qu'il a ri. Le Palermo n'est pas de force. Les juges et les jurés mollissent, anéantis devant de tels hommes. Le public commence à s'enfiévrer. Fouquier flaire l'imminence du danger. L'audience est suspendue. Les députés, amarres, David, Vadier, voulant, n'ont point quitté le tribunal. Ils vont, s'agitent, parlent aux jurés, aux juges, aux témoins, disant à tous que les accusés sont des scélérats, et particulièrement Danton. Dumas, qui n'a rien à voir là, puisqu'il préside en ce moment l'autre section, chapitre à sa façon les récalcitrants. Mais Fouquier a d'autres moyens. À quoi bon convaincre quand on peut faire taire? Le temps passe. Les 3 jours vont se terminer. Demain, on posera aux jurés la question de savoir s'ils sont suffisamment éclairés. S'ils répondent négativement, tout est perdu. Alors, de son cabinet, il appelle à son aide le comité. Il écrit qu'un orage terrible gronde sur le tribunal. Les accusés réclament l'audition de témoins à décharge. Ils en appellent au peuple tout entier. Le tribunal est décontenancé et il sollicite un décret qui mette fin à cette agitation dangereuse. Il sait bien comment la perfidie de Robespierre utilisera ce perfide billet, et il n'a pas longtemps à attendre. Il est rentré à l'audience. Il annonce aux accusés, pour les amadouer, qu'il vient de prendre les ordres de la Convention. Et les malheureux, pleins d'illusions, manifestent la joie la plus sincère et la plus vive reconnaissance. C'est sans nul doute à ce moment qu'il faut placer ce mot de Danton à Hermant « Je te respecte, président, tu as l'âme honnête ». L'audience se poursuit dans le calme jusqu'à 5 heures. À ce moment, un huissier remet à Hermant un billet à portée de la Convention, c'est Collot d'Herbois qui l'a griffonné. Quelques instants plus tard, l'huissier avertit Fouquier qui sort précipitamment de l'audience. Dans le couloir, il se heurte à Amar et à Voulan, revenant des Tuileries. « Eh bien, voilà ce que tu demandes, c'est le décret de mettre les accusés hors des débats. » Voulan ajoute « De quoi vous mettre à l'aise ?» Fouquier, rasséréné, réplique en souriant « Ma foi, nous en avions besoin. » Et d'un air de satisfaction, il rentre à l'audience. Il tient à la main la réponse de la Convention au vœu des accusés. Grand silence, il en donne lecture. Et quoi, c'est un arrêt de mort! Les juges, les jurés, le peuple, les prévenus sont stupéfaits. Ils se regardent, ils ne savent ce que cela veut dire. Danton se lève, terrifiant. Il somme les magistrats, il adjure les spectateurs de déclarer s'il est vrai que les accusés se sont révoltés. Les juges, les jurés, médusés, conviennent que c'est faux, que la Convention a été trompée. Le public crie à la trahison. Il est attendri, il est ému, il s'agite. Hermant déclare l'audience terminée. Les 3 jours sont enfin passés. Le lendemain, qui était le 5 avril, dès 8h30 du matin, les députés Amar, David et les autres rôdent déjà par les couloirs. Ils montent à la buvette où les jurés se réunissent. Fouquier et Hermant s'y rendent aussi. Tous ensemble passent dans la salle du jury qui est toute voisine. Un employé qui se trouvait au fond du greffe entend tout à coup un grand bruit dans l'escalier qui conduit à la buvette. Il accourt sur le palier et voit descendre les jurés à la tête desquels l'Auvergnat Trinchard. Ils avaient l'air de forcenés, fous de rage. Fouquier venait de leur communiquer une lettre qui disait arrivée de l'étranger et adressée à Danton. Trinchard agitait les bras, criant « Les scélérats vont périr !» Et le député David, qui descendait avec les autres, répétait d'un air de joie féroce « Enfin, nous les tenons !» Tous s'engouffrèrent dans la salle d'audience. Quelques instants plus tard, ils en ressortaient. Trinchard, chef du jury, venait de déclarer la conscience de ses collègues ainsi que la sienne suffisamment éclairée. Tout le tribunal était terrifié. Jusqu'au plus humble des copistes, chacun se terrait dans son bureau, redoutant d'être compromis dans ce grand crime. Et l'on entendait la bousculade des gendarmes arrachant les accusés des gradins auxquels ils se cramponnaient désespérément, les éclats de voix de Danton, les cris aigus de Camille Desmoulins que les soldats emportaient, se débattant. On ne les revit plus. Fouquier crut prudent de ne pas rappeler les condamnés pour la lecture du jugement. Le peuple, peut-être indigné, ne se serait-il pas révolté? Danton et ses 15 compagnons n'apprirent leur sentence qu'à la conciergerie, au moment où les aides du bourreau s'occupaient déjà des préparatifs de l'exécution. Elle eut lieu le jour même, et le soir venu, Fouquier put dormir tranquille. Mais le lendemain, comme de bonne heure il était à la buvette, Paris Fabricius, son greffier, l'aborda. Fouquier tenait à la main une liste des jurés de la veille qu'il annotait à l'aide d'un crayon. En regard de certains noms, il écrivait en marge un F. Il disait en même temps « faible ». Paris, qui avait refusé de signer la condamnation de Danton, son ami, et qui en avait gros sur le cœur, s'informa de ce que faisait l'accusateur public. Celui-ci continua son travail, coula sur Paris un regard sournois, et ricanant de sa voix pateline, il dit, comme se parlant à lui-même, « C'est un petit raisonneur. Nous ne voulons pas des gens qui raisonnent, nous voulons que cela marche. » Et le silence de l'autre, l'offusquant comme un reproche, il posa son papier, regarda le greffier fixement et ajouta « Au surplus, c'est le comité de salut public qui le veut ainsi. » Le surlendemain, Paris Fabricius ne reparut pas. Quelques-uns s'inquiétèrent, mais bien vite, on n'en parla plus. Il était au secret, à la prison de Luxembourg.